Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus le Christ selon l'écrit de Matthieu pour le troisième dimanche ordinaire. Apprenant que Jean a été livré, Jésus se retire en Galilée. Abandonnant Nazareth, il vient habiter à Capharnaüm au bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que la parole dite par le prophète Isaïe soit accomplie.
Terre de Zabulon et terre de Nephtali, chemin de la mer, confins du Jourdain, Galilée des nations païennes. Le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui sont assis dans le pays d'ombre de mort, une lumière s'est levée.
Dès lors, Jésus commence à proclamer et à dire
« Faites un retour, car le règne des cieux se fait proche. »
Marchant le long de la mer de Galilée, il voit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jettent un filet dans la mer, car ce sont des pêcheurs. Il leur dit
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'êtres humains. »
Eux, aussitôt, laissant les filets, se mettent à sa suite. De là, il marche et voit deux autres frères, Jacques à Zébédée et Jean, son frère, dans la barque avec leur père. Ils arrangent leurs filets. Il les appelle. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, se mettent à sa suite. Et ils parcourent toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du règne et guérissant toute maladie, toute infirmité dans le peuple. Sa renommée gagne toute la Syrie. On lui présente tous les malades atteints de divers maux et de tourments, des possédés de démons, des épileptiques et des paralysés. Et il les guérit. De grandes foules l'accompagnent. Elles viennent de la Galilée et des dix villes, et de Jérusalem, et de Judée, et d'au-delà du Jourdain.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, faites un retour, car le règne des cieux se fait proche. Cette phrase, d'après tous nos évangiles, résume le message de Jésus. Et ce message, il y a 2000 ans, a attiré les foules. Alors, est-ce qu'il peut encore avoir un attrait aujourd'hui? Voilà la question peut-être la plus importante que ce texte nous pose. Mais regardons d'abord la place du texte dans le récit évangélique de Matthieu. Il se trouve entre baptême et tentation d'une part, et le sermon sur la montagne d'autre part.
Eh bien justement, en quoi ce contexte peut-il nous éclairer?
Le baptême de Jésus marque le début de son ministère de prédicateur. Il reçoit là l'Esprit de Dieu qui fait de lui son serviteur pour proclamer un évangile, c'est-à-dire un message de Dieu. Le récit des tentations vient lui nous dire qu'avant de commencer son ministère, Jésus a fait une sorte de retraite. C'est dans le silence de la prière qu'il va choisir les moyens qu'il utilisera pour faire entendre son message. Avant de nous donner le contenu même du message que Jésus va proclamer, ce sera dans une prédication qui s'ouvre par les Béatitudes, Matthieu, lui, fait une rapide description générale des débuts de la mission de Jésus. L'essentiel de son message et de son action. Eh bien, c'est là notre texte.
Le message se résume en peu de mots. Faites un retour, le règne des cieux se fait proche.
Oui, et ces mots, s'ils accrochaient l'auditoire, c'est qu'à l'époque, ils devaient être parlants. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ben, écartons tout de suite, pour le règne des cieux, une mauvaise interprétation du terme « les cieux ». On pourrait croire que Jésus parle d'un règne qui ne viendrait qu'après la mort, au ciel. Mais il parle du règne de Dieu sur cette terre. En effet, les Juifs se refusent par respect à prononcer le nom de Dieu, et il est fréquent que le mot Dieu soit remplacé par le mot cieux.
Et Jésus proclame que ce règne se fait proche aujourd'hui. Pourquoi et comment?
Mais tentons d'abord de comprendre le mot règne qui n'est pas évident aujourd'hui où nous vivons dans des états démocratiques. Dans la langue de Jésus, l'araméen, c'est un même mot, le mot malkouta, qui signifie à la fois le règne et la règle. Et c'est très curieux parce qu'on trouve ce même rapprochement dans nos langues indo-européennes, l'anglais, l'allemand, le français. La racine des mots règne et règle est la même. C'est le mot rec qui traduit l'idée de ce qui est droit. Une règle, eh bien, c'est ce qui permet de tracer des lignes droites. Et une règle de vie, les règlements du droit, ce sont les directives qui indiquent comment il faut vivre dans la société pour vivre droitement, avec droiture. Et vous voyez que tous ces mots, directives, roi, droit, droiture, diriger, tous ces mots ont la même racine, rec. Eh bien, la Torah, qui est l'enseignement divin transmis par Moïse, et qu'on traduit souvent par le mot loi, sans doute d'ailleurs avec erreur, la Torah trace la direction donnée par Dieu pour trouver le bonheur. Écoutons le texte du chapitre 30 du Deutéronome.
Je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les préceptes du Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses préceptes, ses règles et ses coutumes, tu vivras.
Le roi, c'est la racine rec encore, est celui qui dirige. Et parce qu'il est celui qui dirige, dans le droit chemin, le Seigneur Dieu, c'est lui qui est le véritable roi d'Israël. Moïse d'ailleurs avait imposé cela, vous n'aurez pas d'autre roi que le Seigneur. Et c'est bien plus tard, 100 ans plus tard, qu'aux demandes répétées du peuple, Samuel concédera un roi humain, un roi qui deviendra le lieu tenant du roi des cieux, au sens fort de ce mot, celui qui tient lieu de roi des cieux. C'est donc Dieu qui est le roi du peuple d'Israël, et il est roi parce qu'il a donné une règle de vie. Un adage des rabbins juifs disait « C'est le peuple qui fait régner le roi, et non le roi qui se fait régner lui-même. » Eh bien, comment est-ce que le peuple fait régner le roi? C'est justement en appliquant la règle que le roi lui a donnée. Dieu règne sur son peuple lorsque son peuple vit selon sa règle de vie. Mais au contraire, le règne de Dieu s'efface devant le règne des puissances païennes, lorsqu'Israël est envahi et occupé par les ennemis, et cela arrive justement parce que le peuple a délaissé l'observance de la règle de Dieu. C'est du moins la conception qu'en avait et qu'en a le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Dans les temps d'exil, Israël va en connaître beaucoup, les prophètes inviteront toujours à faire un retour vers Dieu. Écoutons encore le Deutéronome.
Si tu reviens au Seigneur ton Dieu, si tu écoutes sa voix de tout ton cœur, de toute ta vie, le Seigneur ton Dieu ramènera tes captifs et te rassemblera à nouveau. De nouveau, le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur. Si tu écoutes la voix du Seigneur en gardant ses préceptes et ses directives, si tu reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta vie.
Jésus proclame « Faites un retour ». On traduit souvent « convertissez-vous ». Le mot grec, qui est là, « metanoeo », veut dire en effet « changer sa façon de penser, changer son esprit ». Et dans la langue de Jésus, cela signifie « faire un retour », c'est-à-dire « revenir vers Dieu et vers sa Torah ». Comme on le voit, les textes qui viennent de nous être lus. « Si tu reviens au Seigneur ». La conversion, c'est donc de revenir à une vie qui sera plus fidèle à la règle du royaume de Dieu. Dans le langage de la Bible, on dit qu'il faut prendre sur soi le joug de la règle, le joug du règne de Dieu. L'image du joug décrit l'apprentissage de la règle de Dieu. Dans notre monde d'aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup de joug. C'est une sorte d'attelage qui est faite d'une pièce de bois attachée sur la nuque des bœufs pour diriger. En effet, le joug permet de faire marcher selon la direction que donne celui qui guide. Eh bien, prendre sur soi le joug de la règle de Dieu, c'est se laisser diriger par Dieu lui-même. Les jeunes juifs apprenaient, certains encore le font aujourd'hui, apprenaient par cœur la règle de Dieu, la Torah. À une époque où les rouleaux écrits étaient très rares, apprendre par cœur, c'était l'unique façon de bien connaître la règle. On apprenait le texte de la Torah en chantant et en se balançant de gauche à droite ou d'avant en arrière. Il n'y a pas si longtemps, André, nos auditeurs, les moins jeunes, apprenaient encore les tables de multiplication ainsi en se balançant et en chantant 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6.
Ah oui, j'ai fait ça.
Ce balancement de gauche à droite évoque, c'est pour ça qu'on l'appelle le joug, évoque l'image d'un bœuf qui marche en balançant son corps de gauche à droite à cause de ce joug de bois qu'il a sur la nuque.
Mais pourquoi apprendre de mémoire par cœur?
Eh bien, je crois que c'est par ce qui s'imprime dans notre mémoire profonde, cette mémoire profonde que la Bible appelait le cœur. C'est cela qui va nous faire agir et qui va dicter notre conduite. Écoutons encore le chapitre 5 du Deutéronome.
Écoute les directives et les coutumes, apprends-les pour les mettre en pratique. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Observe le jour du sabbat. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne prendras pas le bien d'autrui.
Le règne de Dieu se fait proche. Eh bien, comment comprendre cela? On va illustrer cela par encore le chapitre 30 du Deutéronome. Pour celui qui imprime la règle de Dieu dans la mémoire de son cœur, Dieu ne saurait être un Dieu lointain.
Cette Torah que je te prescris n'est pas au-delà de tes moyens, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux qu'il faille te dire « Qui montera pour nous aux cieux pour aller la chercher ?» Elle n'est pas au-delà des mers, car la parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique.
Voilà, celui qui vit, qui pratique la règle de vie de Dieu, eh bien pour lui, le règne de Dieu n'est pas inaccessible. Il peut la faire revenir, cette règle, chaque matin dans la mémoire. Il la prend dans la mémoire de son cœur, il la remet sur sa bouche pour s'en nourrir et pour vivre. Par contre, celui qui n'applique pas la règle de vie de Dieu, on dit qu'il a la nuque raide. Il ne prend pas vraiment sur lui le joug de la règle.
Jésus dit-il davantage que le Deutéronome?
Bien probablement, car si Jésus n'avait fait que répéter les textes anciens, en quoi est-ce que son message aurait été un évangile, c'est-à-dire un message de bonheur, de renouveau, de nouveauté? Alors on peut dire que le règne de Dieu se fait proche par l'enseignement de Jésus, qui est différent de l'enseignement de l'époque. Jésus va s'en expliquer au chapitre 11 de Matthieu.
« Venez à mon école, vous qui êtes accablés, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, car il est aisé, facile à porter. »
Ce joug, c'est donc le joug de la règle que Jésus va donner. Les auditeurs de Jésus ne seront plus accablés par tous les règlements que les rabbis, les maîtres d'alors, ont ajoutés à la règle de Dieu. 613 préceptes à apprendre et à mettre en pratique. Jésus, lui, reprend l'essentiel de la règle, qu'il résume en deux préceptes dont dit-il, ces deux préceptes ne font qu'un.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. À ces deux préceptes se rattachent toute la Torah et les prophètes.
Ou encore Jésus reprend ce qu'on appelle la règle d'or, qui était connue d'ailleurs d'autres peuples de l'Antiquité.
Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la Torah et les prophètes.
Eh bien, Jésus distingue donc ce qui est vraiment d'inspiration divine dans la règle et ce qui n'est selon lui que des préceptes humains.
La proximité du règne de Dieu viendrait donc d'une règle qui est ramenée à l'essentiel.
Eh bien, c'est une première réponse, mais il y a, il me semble, une autre façon de comprendre cette proximité du règne de Dieu. En effet, par ses seules forces, le fidèle n'arrive pas à mettre en pratique la règle de Dieu. Ce que la règle lui fait voir, bien c'est sa faiblesse, son péché. L'apôtre Paul traduira cette expérience dans la lettre aux Romains.
Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Je me complais dans la règle de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre règle dans mes membres qui lutte contre la règle de ma raison et m'enchaîne au péché.
Alors, considérer la règle de Dieu comme quelque chose, j'allais dire, d'impossible à pratiquer, selon ce que nous dit Paul, bien c'est que Dieu devient un Dieu lointain et inaccessible. On se sent condamné par un Dieu dont on ne vit pas vraiment les exigences. Alors pour Jésus, eh bien, pour Jésus, Dieu, avant d'être juge, est un père. Il veut faire de nous son fils, sa fille. Et ce n'est pas simplement une étiquette qu'il pose sur nous. Pour cela, Dieu nous donne, Dieu met en nous son esprit. Il l'a donné à Moïse, et Moïse l'a donné aux 70 anciens d'Israël. Ézéchiel a promis que Dieu mettrait un esprit nouveau dans les cœurs. Écoutons le chapitre 36.
« Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes préceptes. »
Mais, et c'est là la nouveauté, j'allais dire, en Jésus, Dieu trouve un cœur d'homme, un cœur humain, qui est totalement prêt à accueillir son esprit, totalement prêt à vivre avec lui une pleine et libre communion. Et Jésus va donner cet esprit à ceux qui voudront bien l'accueillir. Et comme Jésus est toujours vivant, ressuscité de la mort, eh bien Jésus continue à travers les siècles à donner son esprit à ceux qui veulent devenir ses disciples. C'est ce que nous redit encore Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8.
La règle de l'esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus affranchi de la loi du péché. Tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ainsi, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ».
Oui, pour celui qui vit avec Jésus, qui reçoit son esprit, eh bien Dieu n'est plus le juge lointain, mais il est au contraire le Père, plein de tendresse et de miséricorde, toujours proche de celui qui accueille son pardon, de celui, de celle qui revient vers lui comme le fils prodigue. Dieu, sans cesse, nous fait revivre et c'est pourquoi il est proche. Dans notre récit, le résumé que Matthieu fait du ministère de Jésus décrit bien comment Dieu se fait proche.
Il parcourt toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. On lui présente tous les malades atteints de divers maux et de tourments, des possédés de démons, des épileptiques et des paralysés. Et il les guérit.
Oui, si l'on compare Jésus à Jean, eh bien Jean lançait des invectives à ses auditeurs en leur annonçant le jour du jugement de Dieu. Jésus, au contraire, guérit ceux qui l'approchent. et guérir, c'est d'une certaine manière pardonner. À l'époque de Jésus, la maladie n'est pas seulement perçue comme un mal physique, mais comme liée à un mal moral. D'ailleurs, de nos jours, nous parlons de plus en plus de maladies psychosomatiques pour dire ce lien qu'il y a entre le physique et le moral. On dit souvent qu'un bon moral, c'est 50% de la guérison, sinon plus. On sait aussi combien le mal physique peut nous refermer sur nous-mêmes et nous empêcher de bien vivre. En effet, lorsque nous nous enfermons sur nous-mêmes, nous nous fermons aux autres et la vie ne circule plus pleinement en nous. Car on pourrait dire que la vie, c'est d'abord un souffle qui nous vient de l'autre, de nos parents bien sûr, mais aussi de tous ceux qui, à travers notre vie, nous font vivre et nous font grandir. Et bien sûr, en priorité, ce souffle de vie nous vient de Dieu et de Jésus. Retrouver le lien de confiance avec Dieu, Dieu comme source de la vie, c'est retrouver, renouveler notre lien de paternité avec lui. C'est redire à Dieu, tu es mon Père. Lorsque Jésus constate la guérison de quelqu'un, est-ce qu'il ne lui dit pas, ta confiance t'a sauvé? Il me semble que cela ne veut pas dire, tu es guéri parce que tu as confiance en mes dons de guérisseur, mais plutôt, tu es guéri parce que tu as retrouvé ton lien de confiance avec Dieu, source de la vie. Tu as ouvert ton cœur à Dieu, tu reçois son esprit, tu as ouvert ton cœur à l'amour, tu retrouves la source de la vraie joie, tu revis en fils et en fille de Dieu. Voilà, il me semble, comment Dieu se fait proche. Et pourquoi, pour le chrétien, le joug de la règle de Jésus est plus facile à porter. On ne porte pas seul ce joug, c'est Jésus qui le porte avec nous. Pour devenir fils et fille de Dieu, eh bien, le Fils premier-né, Jésus, est notre modèle et il nous accompagne. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs que la règle est devenue moins exigeante. La justice des pharisiens dicte de rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal. Tu m'as rendu service, je dois te le rendre. Tu m'as invité à ta table, je dois te rendre l'appareil. Mais la justice de Dieu va plus loin. Et le chapitre 5 de Matthieu nous le redit. Elle nous demande de vivre la bonté généreusement et gratuitement.
On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Tu pardonneras 77 fois, 7 fois.
Et cette règle, bien sans doute, elle peut nous sembler surhumaine. Mais elle devient possible lorsqu'on ne compte plus sur nos seules forces, mais sur l'amour de Dieu qu'on accueille en soi. Dans la communion avec Dieu, on est inspiré par une force et une énergie divine. Et comment se laisser imprégner par cet amour de Dieu? Eh bien, il faut ouvrir son cœur à l'Esprit dans le profond silence d'une prière quotidienne, une prière nourrie de l'Évangile, la parole de Dieu qui est Esprit et qui est vie. Et puis il faut s'efforcer d'aimer son prochain comme soi-même. Eh bien voilà donc le résumé de l'enseignement de Jésus. Tournez vos cœurs vers Dieu comme vers un Père. Et pour cela, mettez-vous à mon école et vous trouverez vraiment le bonheur. Voyons-nous vraiment, vivons-nous vraiment comme cela, la vie chrétienne. Cet enseignement de Jésus est vraiment un évangile au sens premier du mot, qui veut dire un message de bonheur. Et le sermon sur la montagne qui va suivre dans les semaines qui viennent, détaillera les chemins à prendre pour vivre ce bonheur. Mais, et c'est la fin de notre texte, pour proposer ce message, Jésus va choisir des disciples qui deviendront ses collaborateurs et ses envoyés.
Comment comprendre « je vous ferai pêcheur d'êtres humains » ?
On peut interpréter cette image dans le sens de « rassembleur », comme le filet rassemble les poissons, les envoyés de Jésus rassembleront des humains. On peut aussi comprendre l'image autrement, car dans la Bible, les profondeurs de la mer, c'est l'image des abîmes du mal, du péché. Alors, de la même façon que le pêcheur tire le poisson des profondeurs de la mer, de même Jésus et ses envoyés tireront les humains des profondeurs du monde du mal, pour les libérer de la servitude, de la crainte, pour les guérir en les rendant libres et aimants. En devenant les témoins du Dieu d'amour, du Dieu Père, Jésus et ses envoyés indiquent aux humains, la route de la guérison spirituelle. Ils apportent la lumière qui montre le chemin de la vraie vie. Pour traduire ça, Matthieu reprend un ancien texte biblique, celui du livre d'Isaïe au chapitre 9.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays d'ombre de mort, une lumière a resplendi.
Alors on peut se poser la question, pourquoi Jésus se retire en Galilée? Est-ce qu'il ne serait pas plus logique qu'il fasse entendre son message à Jérusalem, car Jérusalem est la ville du royaume, le lieu du temple, avec toute l'élite religieuse? Eh bien c'est que la Galilée est appelée le carrefour des nations, parce qu'il y a dans cette région de nombreux groupes humains qui ne sont pas juifs. Cela rejoint d'autres événements qui sont relatés par l'écrit de Matthieu. D'abord, à la naissance de Jésus, seuls des païens, les mages, viennent reconnaître l'enfant de Marie. Et à la résurrection, le messager de Dieu demandera aux disciples de se rendre en Galilée. C'est de là que Jésus quittera ses disciples en leur disant « Allez faire disciples toutes les nations ». On pourrait comprendre cette insistance sur les peuples païens de cette manière. Pas plus que Dieu n'est réservé aux juifs purs et fidèles, mais qu'il se fait proche des pécheurs, ainsi Dieu n'est pas réservé aux juifs, il se fait proche de tous les humains. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, nos communautés sont-elles des lieux où transparaît ce visage de l'amour universel de Dieu? Sont-elles des fraternités réunies autour du Père qui est Dieu? Des fraternités où le Père fait vivre le pardon entre frères et sœurs? Ou bien nos églises paroissiales ne sont que des assemblées de cultes formées de gens qui ont entre eux des liens sociaux de bon voisinage? Nous ne sommes pas seulement les disciples de Jésus, nous chrétiens, nous sommes les continuateurs de sa mission. Laissons-nous, avec ce programme que saint Dominique donnait à ses frères, et qui peut être le programme de tout chrétien, étudier l'Évangile, priez-le, prêchez-le, soyez des sanctuaires de miséricorde.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Utilisez aussi notre télécopieur. Le numéro est 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chères auditrices et auditeurs, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.